Titan Mag. Ti comme Titan, Dan comme Daniel, le magazine de Titan et Dan. Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé
Dominique
au micro et de l'ami fidèle
Laurent
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. Dominique Molin, vous avez interrogé Aurélien Delceau lors de son passage à Majolire de Bourgoin-Jallieu. Aurélien Delceau vit en Isère, où il est professeur et comédien. Il a fondé en 2006 sa propre compagnie de théâtre et met aussi bien en scène ses propres pièces que celles de Molière, Shakespeare, Camus ou Corneille, dont il a monté le Cid avec 10 marionnettes géantes auxquelles il fait, avec une comédienne, interpréter tous les rôles. Et Madame Diogène est son premier roman, pour lequel il est l'un des 3 finalistes du prix Murat 2015. Je connaissais vaguement cette maladie, mais par ce livre, on rentre de plein pied dans la maladie, le syndrome de Diogène. Le but est peut-être de vouloir vivre au plus près de la nature et d'accéder à la plus grande liberté matérielle et mentale au prix d'une vie insalubre caractérisée par un trouble du comportement.
Oui, alors ce qui est intéressant quand même, et ça c'est probablement l'intervention de l'auteur, c'est qu'on peut noter que dans tous ces immondices, il y a énormément de papier, du papier savamment déchiqueté par Madame Diogène, des prospectus, de la publicité pour une vie meilleure, autant d'illusions déversées dans nos boîtes aux lettres par une société qui ne cesse de nous inciter à consommer.
Aurélien Delceau raconte et se dévoile au travers de ce roman Madame Diogène, paru chez Albin Michel. Et écoutons l'entretien.
Bonjour Aurélien Delceau.
Bonjour Dominique.
Merci d'avoir accepté cet entretien pour la librairie Majolire et la radio associative Couleur FM. Alors vous publiez un premier roman, La femme Diogène. C'est l'histoire d'une femme, une vieille femme, qui vit dans son appartement seule, au milieu d'un tas de détritus, de déjections, peuplés de plusieurs centaines d'insectes. On ne les a pas comptés, mais apparemment il y en a beaucoup, de toutes les espèces. Alors elle a son appartement, il y a les voisins, on en parlera peut-être. Mm-hmm. Il y a l'assistante sociale, il y a sa nièce qui vient la voir plus ou moins régulièrement. Elle regarde l'extérieur régulièrement. Alors quand une des libraires m'a présenté le sujet du livre, j'ai fait la grimace, hein, je ne vous cache pas. Et puis je suis rentré à la maison, j'ai lu la première page, la deuxième, et puis finalement je me suis plongé dans la lecture, étonné un petit peu avec une telle histoire d'y trouver un ressort dramatique assez fort. Pour moi, la lecture que j'en ai faite, vous arrivez à créer un certain suspense, on a envie de savoir, on a envie d'accompagner cette femme, probablement parce que vous lui avez donné une présence étonnante. Alors, première question, peut-être, est-ce que je me trompe si je vous dis que vous n'avez pas voulu faire un portrait au sens où on entend habituellement ce mot, vous raconter les journées de cette vieille dame, mais vous ne vous posez jamais la question de savoir ce qui l'a amenée dans cet état. Parfois, vous dites « au début de ce qui lui est arrivé », mais vous n'allez pas au-delà.
C'est ni un portrait, ni une biographie. En fait, c'est vrai qu'elle a de la chair, mais elle n'a pas d'identité. J'ai voulu rester en quelque sorte à son niveau. Et dans une des premières versions de mes tentatives de roman, pour ce roman-là, j'avais essayé une alternance de chapitres. On était avec elle dans l'appartement, et puis, chapitre suivant, on avait une partie de sa vie. Et ça fonctionnait pas du tout, en fait, parce que, bon, on était face à un personnage, mais on allait s'intéresser à comment elle en est arrivée là, mais on allait beaucoup moins s'intéresser à ce qu'elle était là, maintenant, dans son appartement. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était cette femme, ce qu'elle est là, au moment où elle en est. Enfin, c'est la question que pose Diogène. Je cherche un homme. Qu'est-ce que l'homme ? Est-ce que quand on en arrive là, à s'enfermer, à couper toute relation humaine, à ne vivre plus que parmi les choses, qu'est-ce qui reste de l'homme ? Voilà.
On a l'impression, quand on lit son histoire, l'histoire que vous nous présentez d'elle, que vous n'êtes pas insensible. Ce personnage est attachant pour vous.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, et ça m'a violemment ému, une amie d'amis qui m'a dit... tout au long de sa lecture, elle sentait que j'aimais Madame Diogène et que je l'aimais profondément. Et c'est très vrai. Je sais que certains lecteurs ont du mal à tenir en lisant le livre, mais moi j'ai eu du mal à tenir en écrivant. Ce qui me faisait tenir, c'était l'amour pour cette femme, qui pour moi nous révèle presque quelque chose de notre humanité, au fond. Ce personnage m'a permis d'approcher une part de l'humanité de laquelle sinon je serais resté très, très éloigné. On n'a pas l'occasion de rencontrer ces gens-là. On en parle, on commence à en reparler dans des reportages, mais il commence à y avoir presque un côté bête de foire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était sa chair, quoi. C'était elle, oui, c'est une femme qui est là. Donc oui, il y a de l'amour, oui.
Et du coup, peut-être, la raison pour laquelle on a l'impression, on ressent une intensité dramatique assez forte en lisant ces pages.
Moi, j'avais peur qu'elles disparaissent, en fait. J'avais peur de la fin, et plus j'avançais dans l'écriture, plus je voyais que la fin était inéluctable. Je ne pouvais pas finir autrement, et ça m'attristait, mais je ne voyais pas d'autre fin. Et effectivement, il y a des moments où j'avais envie de la protéger du gros, de l'assistante. Je la comprenais vraiment. Mais d'une manière générale, je crois que j'ai une attirance d'écrivain pour les marginaux. Peut-être pas que d'écrivain d'ailleurs. J'aime bien cette idée que les fous sont les sages et que les sages ne sont peut-être pas les fous, mais en tout cas qui sont peut-être pas si sages que ça. Et donc ces personnages-là qui finalement nous interrogent, parce que quand on voit ces vies-là, on se dit, on est obligé de se demander pour soi, et si j'en arrivais là, est-ce que je serais encore moi? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre eux et nous? Et moi je crois que oui.
On a l'impression que sa réclusion quand même a connu plusieurs étapes. Hein. Au début, elle va fumer sur le balcon,
oui,
et ouais. Puis elle s'en va le matin à la maraude chercher des cartons, des bouquets séchés, etc. etc. C'est plus le cas là maintenant. Enfin, maintenant, dans le livre.
Oui, hein. Oui, tout à fait. Il y a des petits moments dans le livre où j'ai quand même voulu montrer que toute sa vie n'avait pas été comme ça. Quelque chose, quoi, qui a déclenché ça. Mais que ça s'est effectivement fait par étapes. Il y a une période durant laquelle elle sort encore de chez elle, à la maraude. Elle ramasse ce qu'elle trouve. Et puis, il y a un moment où, voilà, toutes les fenêtres sont obstruées ou presque, et elle ne sort plus.
Alors justement, à un moment, elle prend son manteau, puis elle fouille dans les poches, et puis elle trouve une photo. Hein ? Vous pouvez nous parler de cette photo ?
Alors, elle trouve une photo en noir et blanc, dentelée, et c'est la photo de son frère. Mais évidemment, elle ne le sait pas. Elle le saurait si elle savait encore lire, si elle retournait la photo. Et c'est la photo d'un être difforme, une photo de première communion. Donc de ce petit garçon qui s'appelait Georges. C'est une photo qui est arrivée là, on sait un peu comment dans le livre, dans le sens où on sait qu'il y a eu une partie de sa vie où elle a classé les choses. Elle a classé les photos. Et puis il y a eu ce basculement où elle a, au contraire, tout déchiré. Et cette photo, si elle l'a mise dans la poche de son manteau à ce moment-là, c'est forcément qu'elle avait un lien très fort avec cet être-là. J'aime bien ce moment où elle, devenue en quelque sorte monstrueuse, regarde celui qui était son frère, et que peut-être elle a rejeté, et que peut-être elle a considéré comme monstre, parce que dans la description, on comprend bien qu'il a une difformité, c'est pas qu'il a un handicap quelconque, mais ça m'intéressait ce face-à-face de celle qui aurait eu une vie normale, rangée, qui était peut-être propre et belle, qui aurait peut-être connu le succès, en tout cas qui avait un appartement dans une grande ville, et qui se retrouve finalement presque au début de sa vie, avec... Ce garçon qui aurait partagé son enfance et qui, lui, est parti au début de la vie avec une difformité.
Il y a un autre élément qui m'a semblé assez fort. Vous dites, quand son état actuel a démarré, vous parlez d'une espèce de révolte contre l'ordre des choses, contre l'ordre du temps. Est-ce que ça peut être un embryon d'explication ou une des raisons possibles? Elle prend tous les papiers dans ses tiroirs, elle les jette, elle les déchire, etc.
Oui, moi j'ai imaginé, alors ce qui n'est pas du tout réaliste au sens où je n'ai pas écrit un traité médical sur le syndrome de Diogène, j'en serais bien incapable, mais on peut toujours lire les maladies comme des symboles ou des symptômes de notre temps aussi. Et le fait que cette maladie soit en augmentation, ça m'a amené à me demander s'il n'y avait pas derrière ça quelque chose qui se disait de notre propre rapport aux choses dans notre société ultra-matérialiste. Et du coup, je me suis mis à imaginer qu'au fond, cette Madame Diogène qui, d'un certain côté, étouffe sous les choses, était peut-être aussi une avant-gardiste qui avait renversé les choses. Parce qu'après tout, elle marche dessus, elle les piétine, elle les foule aux pieds. Elle n'a aucun de nos fétichismes pour les objets de consommation habituels. Elle les écrase, elle les broie, elle les met en miettes, elle les déchire. Voilà, ça m'intéressait aussi ça. D'en faire peut-être celle qui justement, au début du roman, est vue comme la marginale, celle qui aurait peut-être de l'avance sur nous, non pas au sens où je nous souhaiterais tous de finir Diogène, mais au sens où elle serait celle qui ose se débarrasser des choses, se défaire des choses.
Est-ce que je me trompe si je dis que vous, à aucun moment dans le livre vous n'employez le mot folie? J'ai lu deux fois, hein, donc je ne peux pas être certain de ce que j'avance, mais il me semble qu'on ne voit pas le mot.
Je ne crois pas. Peut-être l'adjectif folle doit peut-être arriver
peut-être,
à un moment.
Peut-être, mais pas le mot folie.
Mais peut-être même pas pour la désigner elle,
oui.
Peut-être, je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de m'interdire de l'utiliser, mais c'est possible.
D'accord.
C'est pas, si, il y a quand même dans les débuts de ta folie. Je me demande s'il n'y a pas ça.
Peut-être.
Dans les débuts de ta folie. Bon. Je vous garantis.
Hein, vous parlez de son appartement, et au début, hein, vous parlez d'un terrier. Est-ce que vous la comparez à un animal ?
Oui, il y a plusieurs moments où je la compare à un animal.
Le terrier revient souvent, le mot.
Oui, toujours parce que la distinction monstre-homme, la distinction animal-homme m'intéresse beaucoup. On est dans un siècle où on est à deux doigts de basculer dans le post-humanisme, dans le transhumanisme, avec, les biotechnologies notamment. Et du coup, cette question de qu'est-ce que l'homme, je trouve qu'elle va nous revenir dans la figure de façon très très forte. Et une des façons de trouver des réponses, c'est peut-être d'aller chercher du côté de la première séparation, homme-animal. Qu'est-ce qui fait l'homme ? Et donc, il me semble que si on les appelle des diogènes, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'ils ont cette volonté de se débarrasser de tout vernis civilisationnel pour revenir à quelque chose de plus brut, de plus animal.
Il y a un mot que vous employez aussi à propos de son drôle d'habitat, hein, c'est le mot caverne, comme si ce monceau de détritus constituait pour elle une sorte de refuge. Vous écrivez « Elle aimait rester là, s'y tenir comme en un ventre ».
Oui, là encore, la caverne, la grotte des premiers hommes. Enfin voilà, ça m'intéressait de faire d'elle, au milieu de ces choses, quelqu'un qui recommencerait l'humanité en quelque sorte. Avec ce rêve très, très, très profond en elle, on le découvre vers la fin du roman, d'un retour à la nature, en fait, qui n'est pas possible vu son âge. Bon. Mais au fond, je me demande si derrière cette mise à bas des choses, il n'y a pas cette volonté de retrouver une proximité avec la nature qu'elle avait quand elle était enfant, qu'elle avait quand elle vivait à la campagne, comme on a pu tous vivre si on a eu cette chance-là.
Il y a deux aspects dans la vie de cette femme telle que vous la présentez. Donc c'est drôle d'occupation, on peut dire, pendant la journée. Et puis le regard qu'elle porte sur le monde extérieur qui est très important, apparemment, pour elle.
Elle observe beaucoup par la fenêtre. Mais c'était pour moi une façon de ne pas rester enfermée dans l'appartement, déjà. D'une certaine façon, elle regarde l'écrivain. C'est-à-dire qu'elle ne dit rien, elle ne fait rien, elle observe. Et il me semble que ça, c'est un peu la position de l'écrivain quand il veut parler de la société. Il ne faut pas qu'il oublie ce en quoi il croit, ce pour quoi il vote. Il faut avoir cette distance, il me semble, qui peut rendre les choses plus intéressantes. Et elle a cette posture-là. Alors, elle regarde par curiosité, comme les vaches regardent passer les trains, comme une bête peut nous observer. Et en même temps, elle porte parfois des jugements. Elle est inquiète de ce que l'homme devient. Quand elle voit les gens sortir de la bouche de métro, tous avec leurs écrans à la main, leurs casques sur les oreilles, à ne pas se parler, à se croiser, à marcher comme des fantômes, des feux follets, elle, ça l'intrigue, ça lui fait peur. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle s'est enfermée dans son appartement, parce que ce que devient l'humanité lui fait peur.
Oui, parce que vous évoquez ces gens qui, ou elle les perçoit comme ça, hein, ces gens qui sortent du métro et qui seraient prêts, hein, dites-vous, à se mutiler les uns les autres.
À s'entretuer, oui.
À s'entretuer.
Oui. Une violence qu'on sent monter, enfin, qu'on sent monter dans l'indifférence générale. Enfin, c'est difficile à décrire, les gens se parlent moins, se parlent peu. Je suis toujours surpris quand on raconte qu'autrefois... quand il y avait un chantier, il y a des tas d'ouvriers qui sifflaient en travaillant, qui chantaient. on était plein tous de chansons, de paroles. Enfin, il me semble qu'on abordait beaucoup plus facilement les gens qu'on croisait dans un bus ou dans le métro. Et je suis vraiment effrayé. Ça peut faire vieux con de dire les choses comme ça, mais c'est pas ça. C'est vraiment que j'ai l'impression qu'une part de notre humanité disparaît parce qu'on est pris dans nos rapports virtuels qui viennent remplacer des rapports de chair.
Venir sans nuages, blotti tout contre ses façades. J'étais le malade de tout ce prestige en noyade. Et puis, ce que j'ai perdu la raison. J'irai m'abandonner aux bontés des saisons pour fuir avec toi à l'unisson. J'irai cueillir ces quelques notes d'évasion. C'est dans ce regard que j'ai trouvé mon alliance. Oh, évadé des semblants invivables. Jusqu'au dernier soir, pour toi je garderai le silence. Et puis, ce que j'ai perdu la raison. J'irai m'abandonner aux bontés des saisons pour fuir avec toi à l'unisson. J'irai cueillir ces quelques notes d'évasion.
FM 97.1 avec notre invité Aurélien Delso, et nous venons d'entendre Nico Gamette dans Le serment du silence de l'album du même nom.
Alors il y a donc la ville, hein, ses lumières, ses bruits, son agitation, il y a la pharmacie, il y a la banque, il y a la brasserie, puis il y a les clochards qui reviennent comme une ponctuation jusqu'à la fin du récit. C'est quoi ces clochards?
Par rapport à elle, justement, je pense qu'elle les regarde avec une certaine tendresse, parce qu'elle se dit, au fond, eux et moi, on n'est pas très éloignés, on se comprend. Et en ça, je me sens assez proche d'elle. Moi, je vis bien dans une maison chauffée, tout va bien. Mais quand je suis arrivé pour faire mes études à Grenoble, la première chose qui m'a frappé, qui m'a fait mal, j'avais 15 ans, c'est de voir des gens dans la rue. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça me faisait mal au ventre. Et encore plus mal au ventre de ne pas oser aller leur parler. Bon, quand j'ai pris un peu plus d'assurance à Paris, je me souviens de passer des soirées à discuter avec ces gens-là en sortant de la bibliothèque. Et sans jamais oser aller jusqu'à les inviter à prendre une douche à la maison et tout, parce que j'avais, voilà, parce qu'on est tous avec nos peurs. Mais chaque fois que j'ai discuté avec ces gens-là, ça a toujours été des moments de profonde humanité. Parce qu'ils n'ont pas le temps de nous raconter des choses futiles. Enfin, quand c'est futile, ça ne l'est pas, quoi. Je veux dire, c'est pas des choses sur la couleur de leur dernière voiture, ils n'en ont pas. C'est pas des choses sur la couleur de leur appartement, ils n'en ont pas. Mais du coup, c'est des choses futiles, mais vraiment profondément humaines.
Elle aime bien regarder le ciel, le temps qu'il fait. Et on a l'impression qu'elle attache beaucoup d'importance à la neige.
Oui, oui. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ça aussi. La neige, c'est un motif qui revient souvent dans des choses que j'ai pu écrire par ailleurs. Elle a plaisir à contempler ce qu'on ne fait plus, ou enfin ce qu'on fait moins, ou enfin pas tous, heureusement. Moi, j'aime bien dire à mes élèves de s'ennuyer. Dans la plaine de la Bièvre, ce qu'il y a de plus beau, c'est l'horizon et puis c'est le ciel, quoi, parce que cette plaine est si vaste. Et il y a des moments où on peut être béat devant des nuages, devant la frange un peu rose du soir. Enfin, voilà, c'est des choses banales, mais je repense toujours au poème de Baudelaire, L'étranger, qu'aimes-tu le mieux, étranger, les nuages, les merveilleux nuages.
Au début de sa, on va dire, sa folie, elle va casser, elle va briser la vitrine d'une banque pour récupérer un prospectus qui représente un couple heureux, je crois. Quelle drôle d'idée.
Quelle drôle d'idée, effectivement. Alors ça, d'ailleurs, quand c'est décrit dans le roman, c'est un peu décrit comme la dernière occasion qu'elle a de désirer un objet. Voilà. Puis après, elle en a suffisamment dans l'appartement. Oui, quelle drôle d'idée, quelle drôle tentation que de vouloir casser les banques aujourd'hui.
Mais pour récupérer ce prospectus.
Pourquoi des gens raisonnables aujourd'hui ont envie de casser des banques? Oui, pour récupérer un prospectus. Le couple qui sourit, le sourire Colgate des publicités, je comprends qu'elle ait envie de ça, et envie de le déchirer, et envie de l'arracher de la vitrine. Quoi. Ça, je trouve que ça devient insupportable, cette vente factice du bonheur à travers la publicité.
Et ça nous amène à voir que la société de consommation est très présente dans le livre. Elle vit entourée d'objets finalement qui lui rappellent ou qui lui disent cette société de consommation. Il y a des étiquettes, il y a des publicités, des prospectus, enfin, des choses qui arrivent par le courrier, et puis des choses qu'elle a récupérées dans des catalogues, des photos de catalogues, des pages de catalogues, une image entre guillemets heureuse du monde. C'est important, ça, apparemment.
Non seulement c'est très important, mais c'est ce qui est à l'origine du livre, parce que le syndrome de Diogène, c'est pas un traité médical, encore une fois, ça a été un prétexte pour moi. C'est que d'entendre parler de ces appartements pleins de choses, je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir une maladie à ce point symptomatique de notre temps. C'est à ce point conscient que je suis allé relire Les choses de Pérec, ce livre où Pérec, justement, décrit le fantasme total du jeune couple qui veut son bel appartement empli de choses, et puis ces merveilleux chapitres écrits au conditionnel, ils sont dans la rêverie de tout ce qu'ils posséderaient. Et je suis allé jusqu'à relire donc Pérec, en me faisant le plan de l'appartement de Pérec, secret de fabrication, mais même Madame Diogène, c'est la veuve du couple des choses de Pérec. C'est qu'on retrouve les petits fauteuils crapauds, puis il y a deux, trois objets comme ça que j'ai piqués à Pérec, qui sont dans la description de Pérec. Voilà, c'est la société de consommation, le rêve des Trente Glorieuses avec la génération d'après, quoi. Que ça ne rend pas heureux et qui n'en veut plus. Et c'est amusant que vous remarquiez ça, parce qu'on s'est retrouvés à deux, trois romanciers publiant notre premier roman, et né dans les années fin 70, début 80. Et dans tous nos romans, les choses ont une place capitale. Et je crois que ce n'est pas du tout un hasard. C'est qu'on est peut-être une des premières générations à avoir grandi dans les choses. Et on ne s'en rend même pas compte. Mais je veux dire, la chambre d'un enfant aujourd'hui, la chambre d'un enfant il y a 50 ans, mais comparé, c'est effrayant. Mais c'est effrayant même chez moi. Enfin, je veux dire, je sais pas comment on s'en défait de ça, parce qu'on peut pas dire aux parents, c'est violent de leur dire n'offrez plus rien. On peut pas dire ça. On est tous pris dans un rapport aux choses qui est aussi un rapport sentimental aux choses. Finalement, les choses sont porteuses aujourd'hui de rapports affectifs, psychologiques. Donc c'est très compliqué ce rapport qu'on a aux choses. Mais ça nous étouffe. Et la planète est en train d'en mourir. Je me rends compte que pour ma génération, On a quelque chose à dire là, sur ce fait d'avoir grandi heureux, hein, on n'était pas malheureux, enfin, ça nous rendait moins heureux que d'entendre nos parents chanter ou au fond. Mais voilà, ça a été ancré en nous, et comment en sortir, je ne sais pas.
Il y a un geste qui m'a surpris de la part de cette femme au début du livre, c'est elle se coiffe. Elle se coiffe longuement, un côté, puis l'autre, avec une main, puis avec l'autre.
Ouais.
C'est étonnant, c'est un apparent geste de coquetterie. Bon, elle a des cheveux, c'est pas la peine de les décrire.
Ouais.
Mais quand même, elle se coiffe.
Oui, parce que justement, il fallait que je trouve des moments dans le livre où tout d'un coup, pour le lecteur, c'était bien une femme dont je parlais. C'était bien un être humain. Il y a aussi ce moment où elle allumait, au début de son désordre, le gaz. Simplement pour observer, et elle en faisait un dieu. Qu'elle se coiffe ou qu'elle ait la volonté de trouver des dieux autour d'elle, c'était deux façons de montrer qu'on avait bien affaire à quelqu'un qui avait des aspirations humaines, qui avait une certaine considération d'elle-même, malgré tout, même si elle est entourée par les souris, les insectes, les cafards, voilà, ça nous dégoûte, moi aussi. Il reste quelque chose en elle de digne, voilà, je crois que c'est le bon mot. Et je trouve que le geste de se coiffer, une femme qui se coiffe, je trouve que c'est quelque chose de... Je sais pas, je trouve ce geste beau. C'est pas un jugement social, hein, mais je trouve qu'il y a quelque chose... Pour soi-même, c'est digne.
On va pas tout dire du roman, mais non. J'aimerais bien que vous nous parliez encore... que vous nous parliez de ses voisins à cette bague Diogène.
Alors, ses voisins... Alors,
vous les avez choisis quand même.
Des lecteurs m'ont fait la remarque en disant... C'est des caricatures quand même. Oui, c'est des caricatures assumées dans le sens où moi, je voulais rester avec Madame Diogène en tant que narrateur. Je ne voulais pas sortir de l'appartement et raconter le gros tel qu'il était, c'est-à-dire un homme qui n'est sans doute pas un monstre, mais simplement qui n'en peut plus de vivre parmi des odeurs pareilles, quoi. Et donc, on ne les perçoit qu'à travers ce que Madame Diogène en perçoit. Donc, il y a le gros, il y a Monsieur Jean, qui lui ne dit rien, mais qui c'est l'hypocrite de sa vie, quoi. Il se sert un peu du gros, de la force du gros et de sa violence pour que Madame Diogène soit délogée. Puis on se rend compte que tout normal, entre guillemets, qu'il est, il a sa part de folie quand il parle à l'assistante. Moi, j'avais l'impression qu'on assiste à un délire. Qui y a d'autre ? Il y a les jeunes, voilà. Et puis entre le gros, les jeunes, enfin voilà, il y a des tensions qui montent aussi entre les membres de l'immeuble.
Et cette assistante sociale ?
Alors, elle fait pas partie de l'immeuble, mais
non.
Elle vient...
Parce que de temps en temps, il y a des gens qui toquent à sa porte. Alors, il y a ceux qui toquent pour râler.
Oui.
Et puis,
il y en a quand même qui veulent aider. Il y a la nièce qui vient apporter les vivres régulièrement, apparemment, parce que Madame Diogène survit. Et puis, il y a l'assistante qui vient faire son travail d'assistante et donc qui vient pour l'aider. Mais sauf que Madame Diogène, elle a pas envie d'être aidée. Enfin... Elle a peut-être envie d'être comprise, elle a peut-être envie d'autre chose, mais pas envie d'être aidée. Et bon, c'est un peu un des moments où... Voilà, elle va la mordre. Madame Diogène va mordre l'assistante. Et c'est un moment, moi, que je trouve en partie comique, et que d'autres vont trouver ça absolument affreux. Mais je trouve que ça dit bien un peu d'une façon peut-être plus politique, mais ce rapport qu'on a aussi aux services de l'État qui sont là pour aller rendre service, puis nous on s'en lave les mains. Ça ne suffit pas qu'une assistante passe pour dire « je suis là pour vous aider » si derrière il n'y a pas une société qui est là pour aider, donc des voisins qui s'inquiètent peut-être différemment, même si ça doit être horrible d'avoir un voisin Diogène. Moi je fais la leçon à personne. Hein. J'ai aucune solution pour ces gens-là.
Peut-être parler un petit peu de votre écriture. Ce premier roman, il est paru dans le cadre de ce qu'on appelle la rentrée littéraire. Donc c'est à peu près, j'ai pas mémorisé le chiffre, mais enfin, c'est à peu près 600 romans.
Oui, c'est ça.
Hein, entre mi-juillet et puis septembre-octobre.
Ouais.
Il y a quand même une espèce de pari. Alors ce pari, c'est qui est-ce qui le prend ? C'est l'éditeur ? C'est vous ?
Non, c'est l'éditeur, c'est pas moi.
Ouais.
Pourquoi la rentrée littéraire ? Alors que le contrat avec Albin Michel, il date de juin 2013, mais mon éditrice, Claire Delannoy, a souhaité, je l'en remercie, parce que c'est une marque de confiance, le faire paraître lors d'une rentrée littéraire. Donc c'était trop juste pour septembre 2013. Et elle a tenu à ce qu'il paraisse lors de cette rentrée-là. Alors pourquoi ? Derrière, après, il y a sans doute des choix stratégiques de la maison. Il leur fallait un premier roman l'an dernier, ils en avaient déjà un ou deux. Donc voilà, moi je suis plutôt content de cette confiance-là, même si c'est dur d'être dans cette période de flow,
où
on entend beaucoup parler des livres des autres, et on se dit... Ouais.
Est-ce qu'on peut vous demander comment vous l'avez écrit, ce bouquin? Est-ce qu'il est venu d'un seul jet? Est-ce qu'il y a une longue maturation?
Alors, c'est le premier roman publié, mais j'ai déjà écrit d'autres choses, comme j'écris du théâtre, de la poésie. Et j'étais dans autre chose quand j'entends un documentaire sur France Culture qui évoque cette maladie. J'ai brusquement, ça devenait une nécessité de raconter une histoire autour d'un Diogène. Je ne savais pas quoi, je sentais bien que c'était l'occasion de parler justement de ce rapport aux objets, de la société de consommation. Et puis du coup, il se passe deux ans et demi, trois ans de prise de notes dans des petits carnets de construction du roman, mais qui sont pas, enfin qui sont des temps d'écriture de façon très ponctuelle, très hachée. Après, il y a un moment où le roman démarre, c'est-à-dire que ça y est, j'ai assez d'éléments, je vois assez de choses, et donc j'écris une première version. J'en écris 60 pages, 70 pages, avec cette fameuse alternance de chapitres, dont je suis très content, je sens que ça marche, donc ça c'est une période où j'écris tous les jours. Et puis je laisse passer un mois, je relis et je déchire tout parce que ça marche pas. Et donc là, il y a deux solutions. Soit on dit c'est trop difficile pour moi, j'arrête, je reprends un autre projet. Souvent c'est le cas. Et là, c'était pas le cas. Il fallait que je raconte cette histoire. Donc, à l'automne 2012, je décide de me lever plus tôt et de passer 2 à 3 heures d'écriture tous les matins. Et je sais où je vais, là. D'avoir déchiré la version précédente, je voyais très bien ce qui allait pas, ce qui était en trop. Il fallait accepter d'avoir moins à raconter, en fait. Il fallait accepter de rester avec elle dans l'appartement. Et c'était difficile, parce que j'avais très peur d'être sec. Bon, le roman est court, hein. Mais j'avais très peur de faire beaucoup plus court et que ça devienne une grosse nouvelle. Et voilà, et au bout de 4 mois, bah, c'est écrit. Donc après, y a ma femme qui lit et qui me dit ah non, tu enlèves ce chapitre. Voilà, et après, il y a des discussions pour savoir si ça marche, si ça marche pas. Et puis, je l'envoie à une éditrice avec qui j'avais déjà travaillé pour un roman précédent, mais qui n'en veut pas parce qu'elle trouve que c'est trop une fable. Donc, je m'apprête à mettre ça dans un tiroir et à passer au projet suivant. Mais une amie qui l'avait lu m'a dit non, celui-là, ça va marcher, il faut que tu l'envoies à d'autres. Donc, pour ne rien regretter, j'ai écrit aux 10 plus grosses maisons d'édition en me disant comme ça, ce sera fait, j'aurai pas de regrets. Et puis voilà, j'ai eu deux coups de fil, trois, puis il y en a un qui a eu un ricochet la même semaine.
C'est indiscret de vous demander les autres coups de fil?
Non, il y a eu Martine Boutan de Grasset qui m'a appelé pour me dire que le livre n'avait pas fait l'unanimité. Ils étaient 3 dans le comité de lecture. Il y en a un sur les 3 qui trouvait ça trop noir. Mais elle m'a... Je vous dis ce qu'elle m'a dit. Premier coup de fil d'éditrice qui... Moi, elle avait laissé un message la veille. Je me suis dit, ça va refaire comme avec Alice Penant. C'est-à-dire qu'elle va me dire, c'est bien, mais il faut retravailler ça. Et pas du tout. Elle me dit, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Et ça, quand vous écrivez tout seul depuis que vous avez 6 ans et que vous entendez quelqu'un du métier qui vous dit ça, c'était formidable, quoi. Bon, cela dit, c'était formidable et terrible parce qu'elle ne pouvait pas l'éditer, mais elle est allée jusqu'à me dire « Attendez vos autres réponses, si vous ne trouvez pas d'éditeur, vous me rappelez, je veux vous aider. » Et Martine Boutan, c'est quelqu'un dans le monde des lettres. Donc ça m'a encouragé. Et le lendemain, y avait Albin Michel. Et donc, c'est Martine Boutan qui l'avait envoyé à Fayard. Parce que Grasset et Fayard ont le même patron. Et Fayard a aussi dit que c'était un peu trop noir pour eux. Donc voilà. Alors que Claire Delannoy, Albin Michel, m'a dit « Moi, je le veux tel quel, sans retouche. »
Tu dis je t'aime pour la dernière fois. Comme on s'est dit je t'aime la toute première fois. Est-ce que ça revient? Ressens-tu encore le frisson sur la peau? Quand sans le vouloir ma main passe dans ton dos, est-ce que ça te fait chaud? Danseur, pourtant tu ne me lâchais pas. Je t'ai même entendu dire que tu aimais ça. Est-ce que ça reviendra? On se moquait du sommeil. Tu ne dormais pas. Tu étais prêt à tout, à n'importe quoi.
Couleur FM 97.1, nous avons entendu Brigitte dans Le Déclin, extrait de son album À Bouche, que veux-tu ? Et nous poursuivons l'entretien avec Aurélien Delceau.
Est-ce qu'il y a des auteurs dans la littérature qui vous sont très proches ?
Il y a très proches
ou dont vous aimez parler, oui, à vos élèves, puisque, oui, vous êtes professeur de français.
Alors, le premier nom qui me vient, c'est Camus, parce que je me sens très proche de lui. Pas très proche au sens où je serais à sa hauteur, hein, bien sûr, mais en tant qu'homme. J'en fais pas mon écrivain fétiche au sens où, voilà, il y a une petite grandiloquence parfois dans sa prose qui... Je trouve pas que ce soit le plus grand prosateur de tous les temps, mais la cohérence entre sa vie, ses idées, son œuvre, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça me parle. Après, Bernanos... Lui, à la fois pour l'homme, les idées et le style. C'est vraiment un prosateur, je trouve.
C'est étonnant, parce que Bernanos, en 2014, il ne semble pas que ce soit l'auteur le plus à la mode.
Eh ben oui, mais si, avec Lydie Salvaire et Pas pleurer.
Je n'ai pas lu.
Les grands cimetières sous la lune, on a besoin de cette grande voix.
Mmh. Oui, Les grands cimetières sous la lune, c'est extraordinaire.
Ouais. Mmh. et puis Monsieur Wynne, et puis voilà, enfin tout Bernanos. Après, moi je me nourris beaucoup d'auteurs classiques, je lis peu de littérature étrangère, donc je vais dire des banalités, mais qui sont des géants, Hugo, Baudelaire, Corneille, voilà, Flaubert, c'est incroyable Flaubert.
Alors, vous dites Hugo, par exemple, pour ne pas le nommer, Les Misérables, auprès de vos élèves, ça, c'est quelque chose.
Mais
qui
oui,
peut...
mais bien sûr. Mais mon rêve, c'est d'arriver à désobéir plus encore que je ne le fais et à leur dire, cette année, nous n'allons étudier que Les Misérables. Et de passer l'année avec Les Misérables. Parce qu'à partir des Misérables, on va partout dans la littérature. Et c'est formidable. Et quand je leur raconte des épisodes des Misérables, ils sont bouche bée, parce que Hugo est un scénariste incroyable. S'il était né un peu plus tard avec le cinéma, il aurait fait des merveilles. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Moi, j'ai eu des professeurs qui ont mis Hugo un peu au placard. J'ai eu des professeurs qui ont été formidables, mais certains d'entre eux marqués par 68. Voilà, Hugo, c'était c'était trop Troisième République, quoi. Il y avait un côté vieux papy... Qui puis avec son lyrisme, avec ses grandes idées nobles... Mais c'est terrible de nous avoir privés de ça, parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est un géant. Enfin, l'année dernière, j'ai montré ses encres à mes élèves. J'ai fait un travail de lecture d'image sur ses... En fait, que cet homme ait existé, pour moi, c'est presque un mystère. Comment on peut être aussi génial dans le théâtre, dans la poésie, dans le roman, d'être aussi clairvoyant politiquement, parce que c'est quand même un de nos seuls hommes politiques à être passé... de la droite à l'extrême gauche, quasiment, alors que généralement ils font l'inverse. Et puis, à la fois, ce créateur merveilleux avec ses encres, c'est prodigieux. Je suis fasciné par Hugo. J'ai eu la chance de visiter et sa maison à Guernesey et sa maison Place des Vosges à Paris. C'était vraiment bouleversant.
Il y a une autre activité qui est très importante chez vous, apparemment, c'est le théâtre.
Oui, ça a un peu toujours été, parce que j'ai toujours fait le pitre en famille et écrit des sketchs avec des amis, et voilà. Après, à l'âge de 18 ans, là, j'ai monté une pièce à partir de l'Évangile de Jean, avec l'aumônerie de la Sœur du Pain, des amis de Grenoble et de la Sœur du Pain, des athées, des croyants. Et puis à partir de là, voilà, ça a été la naissance d'une association amateur de théâtre qui existe toujours, la Sœur du Pain, réveillée. Et puis après, avec ma femme, on a voulu créer une troupe professionnelle, donc c'est l'Arbre, dont je suis le directeur artistique.
Et c'est quoi le sous-titre de l'Arbre?
L'Arbre, théâtre d'art pour tous.
Voilà.
Voilà. Oui.
Ça rappelle quelque chose, ça, non?
C'est l'ambition de Villard, oui. Mmh. Alors, c'est à la fois... C'est très banal. Enfin, j'allais dire que toutes les troupes ont un peu cette ambition-là. Nous, on a voulu l'afficher. C'est un peu comme Hugo, quoi. La génération de 68 s'est un peu moquée de Villard et de ses ambitions un peu... Il y avait quelque chose de désuet, peut-être, à vouloir faire de l'art pour tous. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu afficher. Alors, le théâtre d'art, c'est ce théâtre qui mélange, qui va se nourrir et de la musique, et de la marionnette, et du mime, d'un peu tous les arts. Et puis pour tous, parce qu'il faut essayer de ne pas réserver ça à une élite. On essaye, notamment avec un spectacle qui s'appelle La Conférence Complètement Contemporaine, qui est renouvelée tous les 6 mois, à mélanger... J'allais dire du comique troupier, n'exagérons pas, mais enfin, je me suis retrouvé la dernière fois torse nu avec des seins en noix de coco, juste après un poème de Mahmoud Darwish pour évoquer la guerre à Gaza, juste avant un poème du grand poète polonais Zbigniew Herbert, et puis après, remoment de délire. Enfin, ça nous plaît bien de tout mélanger pour parler à tous, et je crois que ça marche. Enfin, vu quand on regarde la salle, objectivement, j'allais dire sociologiquement, le spectre est très très large, très très large. Donc ça nous rend fiers.
Vous voulez nous parler du Cid? Pour grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes.
Ils peuvent se tromper comme les autres hommes, mais ce choix sert de preuve à tous les courtisans qu'ils savent mal payer les services présents. Oui, le Cid, on l'a appris par cœur à deux avec ma femme, et j'ai construit des grands totems. J'ose plus dire marionnette, parce que marionnette, les gens pensent à Guignol ou à des marionnettes à main. Ce sont des grands totems, voilà, qui représentaient chaque personnage. Et nous, à deux, on fait, parce qu'on le joue encore, on fait toutes les voix, pas tout le texte, parce qu'au départ, on le faisait tout le texte et ça durait 2h30. Et là, quand on veut faire du théâtre d'art pour tous, dans les salles des fêtes où les gens sont assis sur des chaises en plastique, et 2h30, c'est... Voilà. Donc on a dû sabrer dans le Grand Corneille et on a réduit ça à 1h30, 1h40. Il y a une vielle à roue électroacoustique aussi qui intervient. C'est un spectacle dont on est fier parce que il y a tous ceux qui redécouvrent Corneille, qu'ils ont dans le sang parce que ils ont appris des tirades par cœur quand ils étaient sur les bancs de l'école. Et puis il y a ceux qui le découvrent et qui le découvrent ah mais c'est ça, c'est et qui sont éblouis par la langue de Corneille.
Et c'est ça que vous avez voulu rendre hommage à.
Mais c'est pas seulement rendre hommage, c'est pour nous c'est une pièce moderne, enfin que c'est notre Roméo et Juliette à nous. Enfin, on est toujours Shakespeare, évidemment que c'est immense Shakespeare, mais enfin Corneille, c'est justement celui qui a essayé au cœur du siècle classique de casser les codes classiques. Quand je commence à étudier le Cid avec mes élèves, une fois je me suis retrouvé à la Tour du Pin avec des jeunes que des garçons de BEP, j'ai commencé en leur demandant ce qui s'était passé lors de la finale de la Coupe du Monde de foot en 2006. Bon, le coup de boule de Zidane, monsieur. Oui, très bien. Hop. Pourquoi ? Pourquoi ce coup de boule ? Ah, mais on avait insulté sa mère. Ah oui, on insulte sa mère et donc il refuse de disputer le match, la Coupe du Monde. On est d'accord, c'est très très mal. Mais au-delà de ce jugement, de cette petite dose de moraline, derrière, c'est la notion d'honneur qui est là. Et qui, qu'on le veuille ou non, est très très présente chez les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est ça dont la pièce parle. Et ça, ça leur parle. C'est pas un truc pour vieux schnock, le Cid de Corneille. C'est au contraire quelque chose d'extrêmement puissant sur la notion de justice, d'honneur. Comment l'honneur, il y a de très beaux textes de Charles Péguy sur Corneille. Et comment il ne sépare pas l'honneur de l'amour. Et c'est en ça qu'il est notre plus grand poète. Alors que Racine, dans les pièces de Racine, j'aime beaucoup la langue de Racine aussi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cruel chez Racine. On ne peut pas aimer sans se faire du mal, et sans faire le mal. Il n'y a pas ça chez Corneille.
Alors, le théâtre, plusieurs façons de montrer au public le théâtre, et puis une compagnie, vous avez des subventions. Non, mais c'est important parce que...
Oui. On a 50 euros de subvention de notre village et c'est tout. On a eu dans le passé une subvention du Conseil Général de l'Isère pour une action très précise qui s'appelait les Belles Échappées, qui étaient des interventions en maison de retraite. Mais on n'a pas de subvention. Alors, c'est difficile et en même temps, comme tout est en train de s'effondrer... Toutes les structures culturelles qui fonctionnaient avec des associations sont en train de, sinon de disparaître, en tout cas de devenir très 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 fragiles. Et du coup, nous, c'est notre chance de croître à un moment où il n'y a plus de subventions et d'y arriver sans subventions. Je ne suis pas en train de faire un discours contre les subventions et contre l'argent public. Simplement, ça nous laisse aussi une grande liberté, parce que dans nos conférences complètement contemporaines, on dit ce qu'on pense de l'actualité. Et si ça ne plaît pas, on peut toujours essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, mais on ne nous fera pas taire.
Non, je posais la question des subventions, parce que j'imagine que si on établit une compagnie, on a quand même envie qu'elle vive un petit peu de ce qu'elle représente, son audience s'élargisse.
On a une salariée à temps plein, on a sur les 6 comédiens qui participent, on en a... un qui a déjà le statut d'intermittent, donc on lui fournit les heures, on se paye des cachets, enfin, c'est une vraie compagnie professionnelle. Hein. Simplement, on essaye, je ne peux pas vous dire qu'on essaye d'inventer un nouveau modèle économique, parce qu'on cherche mais on ne trouve pas. Mais en tout cas, on a cette réflexion de se dire, bon, théâtre d'art pour tous, donc il faut des prix qui soient raisonnables. Et en même temps, si on est sans subvention, il faut payer les artistes, il faut payer le travail qui est fait. Donc on essaye de tenir notre ligne avec tous ces impératifs, en essayant de se contredire le moins possible.
Et cette compagnie, dans sa configuration maximale, combien de personnes
En fait, ça dépend des spectacles. Il y a une salariée permanente, et puis après, les autres sont payés au cachet. En fait, il y a une dizaine de gens qui interviennent ponctuellement dans la compagnie, mais il n'y a pas 10 personnes auxquelles... la compagnie verserait des cachets tous les mois. On espère que la reconnaissance viendra un peu, parce qu'on sent un peu que vis-à-vis de la région Rhône-Alpes, notamment, on est un peu méprisé. Vous savez, il y a ce vocabulaire de la résidence. On est en résidence, nous. On est les seuls comédiens qui habitons pas Grenoble et Lyon. On vit sur notre territoire et on le fait vivre culturellement. Mais bon, comme ça rentre pas dans leur case, et que pour l'instant, on n'est pas reconnus, mais nous sommes patients. Donc ça finira par arriver.
Alors, vous écrivez un roman, vous avez dit qu'il y en avait d'autres qui étaient peut-être dans un tiroir, qui attendent leur heure, non ?
Je ne sais pas si ceux-là ressortiront du tiroir, ouais. Parce que ça mériterait un tel travail de les reprendre. Chaque artiste a besoin de faire ses gammes, et les gammes ne sont pas faites pour être jouées en concert, donc ils peuvent rester peut-être dans les tiroirs avant d'être sérieusement retravaillés.
Alors, je continue, vous faites du théâtre. Il me semble que vous écrivez des poèmes aussi.
Oui, j'ai un blog. Pas parce que je suis extrêmement féru de nouvelles technologies, mais parce que c'est assez pratique comme mode de publication. Il n'y a rien d'agressif. Ceux qui veulent y aller, y vont, et c'est tout. Donc j'aime assez ça. Maintenant, ça reste très modeste, au sens où les poèmes qui sont publiés, ou les textes qui sont publiés sur le blog, ou les dessins éventuels, les croquis, les peintures. C'est juste la porte ouverte sur un atelier d'artiste et un travail en train de se faire. Mais les poèmes n'auraient peut-être pas vocation à être publiés, à entrer dans la forme noble du livre.
Quelle différence vous faites entre, puis ça sera peut-être ma dernière question, entre l'écriture d'un livre, d'un roman, et puis l'écriture, j'imagine que c'est écrit en tout cas, les conférences complètement contemporaines.
Oui, c'est écrit. Quelle différence je fais ? Les conférences complètement contemporaines, elles n'ont pas vocation à rester. C'est un moment, c'est une soirée. Donc c'est un moment où on peut peut-être dire les choses de façon plus directe, plus en prise avec l'actualité. Le roman, il me semble, doit chercher à durer d'une certaine façon. Alors faut pas l'écrire en se disant « j'écris pour dans 3 siècles » parce que ça n'aurait pas de sens et ce serait très vaniteux et ça donnerait sans doute quelque chose de très froid. Mais néanmoins, il faut parler pour longtemps.
Il y a des écrivains qui disent, qu'on entend dire, que lorsqu'ils écrivent, ils s'éloignent de toute lecture. Est-ce que c'est votre cas ?
Non, parce que écrivant quasiment tous les jours, ça voudrait dire que j'arrêterais de lire. Mais vous avez raison, enfin, je les comprends dans le sens où moi, il y a eu une période où voilà, on rencontre un grand livre, un grand auteur, et on a la tentation de le singer. Quand on lit Flaubert, on a le balancement des phrases qui résonne comme si on était resté accroché à une cloche d'église, presque. Et donc ça, je m'en méfie. Maintenant, j'ai l'impression de connaître mieux ma voix et du coup, de la laisser moins sous influence.
Quand je pense à tout ça, quand je pense à tout va, j'ai une sensation de doigt dans l'œil. D'une vie passée en trompe-l'œil à chercher un petit poids caché sous un matelas. Quand je repense à tout ça et quand je repense à tout moi, j'ai une sensation d'erreur mise en boucle. Le sentiment d'une voix lointaine qui me criait « fausse route ». Je déposais mon regard sur le monde que le vent s'empressait de balayer à des kilomètres à la ronde. Je voulais refleurir le désert. J'aurais fait de l'œil à une souris. Je débitais une armée de mots rimant de temps en temps. Je déballais mon cœur qui me faisait horreur. Je prenais pour argent comptant le grondement entêtant des applaudissements. Je partais en guerre contre la connerie. Je partais en campagne plaider ma folie. J'étais comme un coq sur un tas de fumier. Et je l'admets. Que c'est un fusée de vanité. Que je diffusais ma science et mes 4 vérités. Je brillais de 1000 feux en ébriété. Et de sang-froid, je déguisais ma timidité. Est-ce que, comme moi, vous rêvez de cure, de sommeil, d'obscures pensées amères pour se réveiller? Est-ce que, comme moi, vous rêvez d'un supplément de grâce, d'une livraison de sable sous chaque paupière? J'avais choisi la poésie comme rempart à la connerie. J'avais le capital de la torpeur, le monopole de la douleur. Je m'enivrais de cacophonie, et ça a duré une décennie. Je me racontais des histoires en public, des promesses impudiques, comme un chien, je donnais la patte pour qu'on me félicite. Les poèmes maquillaient ma bêtise, les blasphèmes rencardaient ma sottise. J'avais fait vœu d'exulter à chaque note fredonnée, chaque corde frottée, chaque verre vidé, chaque poignée de main serrée, chaque étreinte fêtée, chaque étreinte même ratée. Je partais en guerre, plaider mes phobies, sans prendre de pinceau pour des pas de la vie. à vouloir tout dire et tout assouvir en 3 minutes chrono. Est-ce que comme moi vous rêvez de cure, de sommeil, d'obscures pensées amères pour seul réveil? Est-ce que comme moi vous rêvez d'un supplément de grâce, d'une livraison de sable sous chaque paupière? Laissez-moi rien qu'une fois reposer en paix, choisir rien qu'une fois l'heure du coup près, vivre comme un roi, le repos du guerrier, écrire les clauses de la vie bon marché. Rien qu'une fois reposer en paix, choisir rien qu'une fois l'heure du coup près, vivre comme un roi, le repos du guerrier, écrire les clauses de la vie bon marché. J'avais des rêves de grandeur, de haie d'honneur, de baise main. De main mise sur le cœur, je me suis fourvoyé à vouloir tutoyer le céleste. C'est mes fesses que j'ai fini par vous voyer. Je vendais mes déboires sous prétexte de l'art. Je jouais les icônes au six coins de l'hexagone, comme un chat qui pisse derrière un pylône. Je l'admets. Est-ce que comme moi vous rêvez de cure, de sommeil, d'obscures pensées amères pour seul réveil? Est-ce que comme moi vous rêvez d'un supplément de grâce, d'une livraison de sable sous chaque paupière? Laissez-moi rien qu'une fois reposer en paix, choisir rien qu'une fois l'heure du coup près, vivre comme un roi, le repos du guerrier, réécrire les clauses de la vie bon marché. Rien qu'une fois reposer en paix, choisir rien qu'une fois l'heure du coup près, vivre comme un roi, le repos du guerrier, écrire les clauses de la vie bon marché.
Couleur FM 97.1, avec Aurélien Delceau comme invité, nous venons d'entendre Parade dans Une cure de sommeil de l'album Le bonheur inquiet.
Vous écrivez tous les jours?
J'essaye, mais...
Vous avez le temps de vivre?
Oui, bien sûr.
Non, j'étais inquiet. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un de vos textes?
Volontiers.
Poésie. Il était une fois un clown qui avait des idées. Merci.
Il était une fois un clown qui avait des idées. Il s'en servait pour faire rire, pour ce que le rire est le propre des bêtes qui pensent. Mais le baron bientôt déclara que puisque c'était comme ça, on ne l'inviterait plus au goûter d'anniversaire des enfants, ni aux noces, ni aux enterrements. Mais on n'avait jusque-là jamais songé à l'y inviter. Et on le regretta amèrement. Un singe, dit le baron, fera bien mieux l'affaire. La colère du baron n'était pas tant que le clown eût des idées, mais que ses idées ne fussent pas les bonnes, c'est-à-dire les siennes. Je veux dire celles du baron, car le clown avait bel et bien ses propres idées, cachées plus que sous sa perruque, plus que sous son nez rouge, incrusté dans sa peau. Alors, le clown mourut de faim. À son enterrement, le baron secrètement rigola, 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 rigola tant et si bien dedans lui qu'il en creva. C'est la fin, direz-vous, si tout le monde meurt, de ne plus rire, ou de trop rigoler, ou de ne plus penser, ou de penser rien. Non, ce n'est jamais la fin. Car le clown ressuscite et se remet aussitôt au travail. Et les héritiers du baron, baronneaux et baronesses, d'acheter des singes, beaucoup de singes, et de les lâcher dans la nature. Quelle histoire, me direz-vous, quelle histoire, se disait-on. Et on en rit. On en rit tant qu'on pensa. D'où sortent-ils ces baronneaux, ces baronesses, qui les a mis là, ces empêcheurs de rire, ces empêcheuses de penser? Alors on décida, à l'hilarité générale, de les placer dans les cages des singes. Et les singes, à force de rire, se mirent à penser, et à force de penser, repartirent plus libres qu'ils n'étaient arrivés. Devant ce spectacle de bêtes redevenues des hommes, baronesses et baronneaux comprirent qu'ils s'étaient trompés, et tous se mirent à rire. On oublia le clown, il était déjà loin. Il était arrivé dans une baronnie où l'on ne riait guère. Il était une fois l'histoire d'un clown qui avait des idées. «
Merci Aurélien, merci Dominique. Je pense que l'on peut aller sur le site les www.l-arbre.fr pour en savoir plus sur Aurélien Delceau.
Et si on veut aller voir son blog, on clique sur le moteur de recherche Aurélien Delceau.
Voilà, en tout cas, nous en avons appris sur les un syndrome de plus. Merci beaucoup, merci Laurent et merci Dan. À très bientôt.
Merci.
Au revoir. Ciao, ciao.